Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Leistari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients, oui.
Tout, j'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzel.
Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
I am cooking so good!
S'il y a bien un fromage que j'associe au pique-nique et aux randonnées entre amis, c'est la tomme. Ce type de fromage est pratique à transporter, avec sa croûte qui la protège et sa pâte pressée non cuite qui résiste pas trop mal aux variations de température. Ma tomme préférée, c'est la tomme autrichienne, la tomme aux fleurs. Cette tomme fermière au lait cru est toujours la plus belle des étals de fromagerie. On la reconnaît à son enrobage de fleurs de printemps déshydratées. Ses pétales de mauve, de bleuet ou encore de rose lui offrent de jolies couleurs et un arôme subtil. Mais en fait, des tomes, il y en a plein. Le mot tome est générique. Il sert à désigner un fromage au lait de chèvre, de brebis ou de vache, de forme circulaire, fabriqué en Savoie, en Provence ou dans le Dauphiné. Sur un plateau de fromage, la tome va souvent connoter la production artisanale, la trouvaille de marché, le côté à la fois savoureux et facile à manger. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais certaines tomes s'écrivent avec deux M, comme la tome de Savoie, d'autres avec un seul, comme la tome des Bauges. Peu importe l'orthographe, il s'agit bien du même type de fromage. La plupart du temps, on écrit bien tome avec deux M, le M unique étant surtout une volonté de la part de certains producteurs de se distinguer. Il y a aussi la tome fraîche, celle qui correspond au caillé, autrement dit le produit que l'on obtient après coagulation du lait, que l'on va venir presser. En fait, la tome fraîche, c'est ici la tome qui pourrait devenir du Cantal ou du Salers si on l'a salée, la pressée une seconde fois et l'affinée quelques mois. C'est à partir de cette tome fraîche que l'on prépare l'aligot, avec des pommes de terre réduites en purée, et la truffade aussi, avec des pommes de terre coupées en rondelles et rissolées, ces deux spécialités rurales de l'Aubrac, entre le Cantal et l'Aveyron. Qui de mieux qu'un enfant du pays devenu chef au Plomb du Cantal, un restaurant à Paris près de la gare Montparnasse, pour nous évoquer ces plats qu'il réalise tous les jours. En deuxième partie d'émission, Valentin Andrieux est venu nous parler d'aligot, de truffade et de tome fraîche, ce fromage qu'il a toujours connu.
Une fois que cette purée va être très chaude, on va y mettre des morceaux de tome coupés très fins. On va mélanger tout ça, on va le monter à température tout doucement, et puis évidemment il va y avoir cette osmose, le fromage va fondre, il va commencer à filer, et l'aligot est parfait quand il fait un ruban, on le lève et puis ça fait un gros ruban, on a déjà vu toutes ces images, c'est assez connu.
La plupart du temps, les tomes sont des fromages de montagne. Mais depuis peu, on trouve à Paris une tome francilienne, autrement dit un fromage élaboré à partir du lait de vache situé à seulement 35 km de la capitale, dans le Vexin. Celle-ci est fabriquée et affinée à la laiterie La Chapelle, ouverte il y a à peine un an, dans le 18e arrondissement de Paris. Ce projet un peu fou et hyper militant est porté par un certain Paul Zindi. Après avoir enfilé une tenue d'hygiène, on est allé discuter dans sa cave d'affinage, au milieu des 500 hommes trop occupés à s'affiner en silence pour venir nous déranger. Un endroit idéal pour qu'il nous raconte ce que veut dire pour lui fabriquer du fromage intramuros.
Alors là, on est dans la cave d'affinage de la laiterie. Donc la cave où on a l'ensemble de la production de fromage actuelle, l'ensemble du stock. Donc c'est vraiment l'endroit où on va rentrer, nous, les fromages, ce qu'on appelle en blanc, donc le fromage qui n'est pas affiné, le fromage tout frais qui vient d'être fabriqué. Et on va le laisser, en fait, petit à petit prendre du goût, prendre la couleur, former sa croûte, avant de le sortir sur un temps qui va varier selon le type de fromage qu'on fabrique, pour le proposer en boutique.
Il fait un petit peu frais, alors c'est quoi la température de cette pièce?
Ici, on est dans une cave qui est relativement fraîche, effectivement, on est entre 8 et 10 degrés. On varie entre 8 et 10 degrés, ce qui va être, nous, la bonne température pour faire vieillir tranquillement les fromages, pas trop vite, pour qu'ils prennent petit à petit du goût. En fait, quand le fromage y rentre, il a vraiment un aspect blanc, caoutchouteux, un peu acide, ça pas de goût, pas vraiment beaucoup de goût, ça fait quick. Il a le même goût quel que soit le type de fabrication qu'on ait fait au démarrage. L'idée dans la cave, c'est vraiment là où tout va se passer, toute l'alchimie de la fabrication du fromage va se passer pour développer les arômes, le goût, la couleur, etc. quoi.
Donc là, on a pris toutes les précautions au niveau hygiénique pour entrer dans cet endroit. Donc,
alors effectivement, on s'habille un petit peu en cosmonaute pour entrer dans la cave. Tout simplement, donc les fromages, c'est une bombe bactériologique quand on y réfléchit. C'est-à-dire que c'est évidemment un produit fermenté, donc plein de micro-organismes. On est complètement... moi, je peux pas travailler sans ces micro-organismes. Par contre, c'est vrai qu'on essaye de pas ramener n'importe quel micro-organisme. Donc dès qu'on rentre dans la cave, on fait attention de mettre blouse et autres équipements nécessaires pour tout simplement favoriser les microbes du lait, mais pas trop ramener ceux de l'environnement parisien. Quoi.
Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer alors les différentes étapes de confection des tomes qu'il y a ici?
Alors, donc, au départ, on part du lait. Donc, c'est comme tous les fromages, l'ingrédient de base pour faire tous les fromages qu'on connaît, c'est toujours le lait de différentes espèces. Nous, ici, on travaille 100% sur du lait de vache pour toujours ce côté local. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a notre lait, nous, dans la cuve, on va d'abord le réchauffer. Tout simplement parce que pendant la nuit, pour le conserver à la ferme, il a été rafraîchi à 4 degrés. Donc, je réchauffe mon lait. On rajoute nos ferments lactiques dans le lait. Donc, c'est nos bactéries qui vont travailler dans le lait et qui vont notamment transformer petit à petit le sucre du lait en acide lactique.
C'est l'étape qu'on appelle coagulation du lait.
Exactement. Et qu'on va aider en ajoutant un autre agent qui est primordial pour la coagulation du lait, qui est la présure. Et donc, du coup, qui est ce petit ciseau, on va dire, qui va venir couper les protéines du lait et qui va permettre la coagulation. Une fois qu'on a coagulé le lait, c'est-à-dire qu'on l'a transformé en gros yaourt, on découpe ce yaourt en plein de petits cubes et on va brasser un petit peu ces cubes dans la cuve pour les égoutter. Et ensuite, on va passer à l'étape du moulage. C'est vraiment le moment où on va donner la forme au fromage. Forme qui sera fonction du type de fromage, petit format, grand format, selon ce qu'on veut faire et ce qu'on a fait en amont.
D'accord. Alors, sachant que la tome, c'est aussi un nom générique que l'on donne à ces fromages circulaires, c'est bien ça?
Exactement. Tome, c'est vraiment un nom ultra générique qui peut s'appliquer à des fromages de vache, de chèvre, de brebis. C'est vraiment globalement une pâte assez ferme, croûte naturelle ou pas, ça peut être une croûte lavée. Le tome, c'est vraiment le terme ultra générique qui désigne finalement un fromage, une forme ronde, quoi.
Ouais. Donc après cette fameuse étape, on va.
Donc du coup, une fois qu'on a moulé nos fromages, on va d'abord les presser. Alors, en tout cas, chez nous, on est sur un atelier qui est spécialisé sur ce qu'on appelle dans le jargon les pâtes pressées non cuites. Donc, du coup, on va, pour poursuivre un petit peu l'égouttage du fromage, mettre le fromage sous presse. On va le laisser 24 heures sous presse, donc une nuit complète. Et le lendemain matin, on va sortir le fromage de la presse et on va le saler. Là encore, étape indispensable, un fromage sans sel ne fera jamais un fromage affiné. C'est vraiment un rôle ultra important, le sel, sur la fabrication du fromage et sur l'affinage derrière. Donc on sale nos fromages. Chez nous, on sale au sel sec. Et c'est là où on va faire entrer nos fromages en cave. En cave, ils vont rester 2-3 jours sur des clés métalliques pour continuer à perdre l'eau excédentaire. Et ensuite, on va les passer sur planche d'affinage, de l'épicéa en l'occurrence chez nous, pour continuer leur vieillissement.
Tu as parlé de sel sec, donc c'est par opposition à la saumure, c'est ça?
Exactement. En fait, il y a différents moyens de saler des fromages. On peut soit les saler au sel sec, soit les saler à la saumure, donc qui est une eau salée dans laquelle on plonge le fromage, qui est une autre technique qui marche très bien, qui permet d'avoir des salages réguliers. Voilà, après c'est une affinité de travail, mais j'aime bien frotter mes fromages au sel, tout simplement. Et puis il y avait un autre aspect très pratique, c'est que la saumure, il faut un bac de trempage qui prend de la place et on n'avait pas forcément l'espace pour le positionner.
Alors là, il y a une odeur incroyable, moi je trouve, dans cette cave. C'est assez appétissant d'ailleurs.
Ça ouvre l'appétit, l'odeur de la cave. Là, on est clairement dans l'odeur du fromage. On sent qu'il y a un peu d'humidité, on sent qu'il y a un petit peu de moisissure en développement, on sent qu'il y a un petit côté, si on se rapproche sur les croûtes plus lavées, fermentaires, un peu plus puissant. En fait, ce qui est rigolo dans l'odeur de cette cave, c'est qu'elle est vraiment évolutive et vivante presque en fonction du temps, du moment de la journée. On n'a pas du tout la même odeur quand on vient de travailler une matinée en cave que quand on rentre après un jour où on a laissé les fromages complètement en repos. Et on a vraiment, selon ce qu'on travaille, selon l'endroit où on est en cave et le moment de la journée, une odeur qui peut être très puissante, qui peut être au contraire beaucoup plus douce, un peu plus âcre, etc.
Ça fait combien de temps que ces fromages sont ici?
Alors, ça va dépendre des fromages. Nous, les fromages, ils vont rester au minimum pour nos affinages les plus courts, donc sur le fromage qu'on a appelé le dormois, qui est une pâte plus souple, donc qui travaille plus vite, minimum 2 mois, 2 mois et demi en cave. Et après, sur les tomes, donc tomes classiques, on va sortir les premières autour de 4 mois, sur des tomes relativement jeunes encore, et on essaye de les sortir plutôt autour de 5 mois pour avoir des tomes qui ont un peu plus de caractère, un peu plus de personnalité, et on pourrait les laisser vieillir encore un petit peu pour qu'elles se corsent encore un petit peu plus. L'idée, c'est toujours de trouver le bon optimum pour un lot de fromage par rapport à son goût et l'évolution de son goût, quoi. Pas le sortir trop tôt pour pas qu'il soit trop doux, pas trop tard parce qu'on peut aussi avoir des altérations du goût sur des affinages trop poussés. C'est toujours une histoire de trouver le meilleur moment pour une tome donnée pour la consommer. Et puis on a des fromages encore un petit peu plus secs, c'est les gros formats qu'on a là. Ça, c'est des fromages qui vont évoluer plus lentement. On a enlevé plus d'eau au démarrage, donc ça va rester minimum 6 mois en cave. Et l'idéal, là, on est plutôt à 8 mois, sachant que 8 mois, on est plutôt sur des fromages qui sont encore relativement jeunes pour cela et qu'on pourrait s'amuser à les pousser plus loin. Après, l'histoire de la laiterie fait que pour l'instant, on n'a pas des meules de réserve qu'on a mis de côté. Mais c'est vrai que petit à petit, on s'amuse à de temps en temps sauter un lot, laisser quelques fromages de côté, pousser des affinages un petit peu plus loin.
Ah oui, vous expérimentez un peu aussi alors?
Oui, voilà. Bah après, l'idée, c'est de voir un petit peu le potentiel de chacun, voir jusqu'où on peut aller dans un gradient de goût. On avait laissé, là, on a dégusté il y a 15 jours des fromages qui étaient quasi les premières fabrications de l'an dernier, qu'on avait laissé volontairement devenir tout dur, tout gris, mais vraiment pour essayer de voir un peu le gradient sur un fromage complet, quoi. Donc forcément, sur un petit format, ça fait qu'à la fin, ça commence à piquer un petit peu.
Ouais.
Mais c'est vrai que selon la manière dont on a travaillé au départ, on a des fromages qui auront du potentiel pour rester un petit peu plus longtemps en cave, quoi.
D'accord. J'ai vu aussi que vous commercialisez de la tomme fraîche.
Oui.
Qui pourrait permettre donc de faire de l'aligot ou de la truffade.
Exactement. On la propose vraiment en boutique dans cette idée-là. Après, elle n'est pas réservée à ses seuls usages. Finalement, déjà, ce qui est intéressant, c'est de la goûter. Alors nous, ce qu'on appelle tomme fraîche, c'est déjà la tomme qui est un peu acidifiée. C'est-à-dire qu'elle a déjà passé la nuit sous presse, alors qu'on pourrait utiliser de la tomme vraiment non acidifiée aussi pour l'aligot et la truffade. Du coup, nous, l'intérêt, c'est qu'elle est fraîche, salée. Elle a ses textures un petit peu caoutchouteuses. Ça fait un fromage qui est assez agréable, qui n'a pas beaucoup de goût, en tout cas pas le goût d'un fromage affiné. Mais du coup, pour les gens qui cherchent quelque chose de doux, un peu salé pour le petit déjeuner, qui marche très bien. On a pas mal de gens qui sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé sur la cuisine et qui ne se sont pas réservés à la seule truffade et au seul aligot, qu'ils l'utilisent en pizza, qu'ils l'utilisent en tarte, qu'ils l'utilisent pour faire gratiner, qu'ils l'utilisent en quesadillas ou autre recette. Et voilà. Et puis après, les gens qui l'aiment bien grignoter comme ça, juste
d'accord,
en fromage frais.
Oui, elle peut aisément remplacer la mozza, par exemple, pour son côté facilement coulant.
Ouais, exactement. En fait, l'intérêt d'un fromage tout frais comme ça, c'est que du coup, il n'y a pas eu encore toutes les réactions d'affinage qu'on a sur un produit fini. Et c'est le stade où finalement, il va avoir le plus de fondant, et ce qui est effectivement les faire chercher dans l'aligot, hein. L'idée, c'est vraiment de faire du fil. Voilà. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'à ce stade, ça le fait facilement.
On pourrait même en faire un gâteau, comme un gâteau au fromage.
Exactement. Un gâteau, pourquoi pas incorporer faudrait essayer dans un soufflé ou autre. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que les tomes sont mises en place dans la cave? Est-ce qu'il faut venir de temps en temps les voir, les retourner?
Oui, alors ça, c'est une part du travail qui est importante. C'est qu'un fromage dans une cave, il reste jamais tout seul sans... Enfin, il a besoin de soins. C'est-à-dire que nous, on va venir régulièrement pour les retourner au minimum. Ça, c'est le commun à tous les fromages. Et ensuite, selon les fromages, on va les frotter soit directement à la main pour abattre juste un petit peu ce qui peut pousser dessus.
Mucor, c'est comme ça qu'on appelle ça?
Voilà, alors le mucor, c'est un des champignons qui peut pousser sur l'extérieur d'un fromage, mais il y en a d'autres. Donc l'idée, c'est un peu en fonction de ce qu'on veut faire et en résultat de fromage, on va apporter le soin qu'il faut pour soit donc frotter pour éviter d'avoir des mucors trop importants ou au contraire ne pas frotter puisqu'il y a des fromages où on va vouloir vraiment développer des croûtes plus épaisses. Et après, nous, il y a aussi tout le travail de lavage sur toutes les croûtes lavées, donc ce qui va être le cas des raclettes, ce qui va être le cas des dormoises, ce qui va être le cas des pajoles. Donc là, on lave vraiment à l'eau le fromage.
J'adore parce que tu as employé le mot soin et tu portes une blouse. Donc ça donne tout de suite un côté très médecin, en fait, le docteur des fromages.
Il y a un petit peu de ça, quoi. C'est vrai qu'on est auprès d'eux, quoi. Il y a besoin d'être en permanence dans la cave. Ça peut évoluer vite, même en cave. Voilà, donc il y a vraiment besoin de régulièrement venir voir où ils en sont. Comme dit, c'est vivant, quoi. C'est-à-dire que nous, en fait, il y a le côté soignant, on est juste les accompagnateurs du produit, quoi. Donc on peut intervenir sur certains éléments, il y en a d'autres sur lesquels on n'a pas vraiment prise directement. L'idée, voilà, c'est qu'on donne un petit peu le cadre et après le fromage fait sa vie, quoi.
C'est quoi le truc que tu aimes le plus avec le fait d'avoir ouvert cette laiterie?
Dans le quotidien de la fabrication, vraiment la partie fromage, c'est passionnant, quoi, parce que justement on travaille sur du vivant, c'est-à-dire que la base, maturation, coagulation, moulage et égouttage, on est d'accord, c'est la même chose pour tous les fromages, et ça on le répète au quotidien. Et pour autant, il n'y a pas un jour où l'ensemble de ces éléments se déroule tout à fait de la même manière avec les mêmes paramètres. Il y a des paramètres qu'on maîtrise, on a d'autres qu'on maîtrise moins, selon le jour, selon la météo, selon plein de choses, ça va évoluer un petit peu différemment. Et du coup, ce qui est ultra passionnant et ultra stimulant pour un fromager, que ce soit pour moi ou pour d'autres, c'est de comprendre tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qui est génial dans ce travail-là, c'est que moi, le résultat du travail d'aujourd'hui, je vais le connaître dans 3, 4, 5 ou 6 mois.
Quelle expérience de la patience, quand même.
Et du coup, voilà, tout ce qui fait l'intérêt, c'est d'essayer de détricoter tout ça pour comprendre qu'est-ce qui a pu faire que tel fromage va être particulièrement excellent, tel autre va être peut-être un petit peu plus doux, un peu plus fade, etc. Et voilà, donc essayer de petit à petit essayer d'avoir une compréhension globale de plein de choses qui nous échappent en plus, parce que les petits microbes, tout ce qui se passe dans un fromage, on ne le voit pas forcément. pour petit à petit nous affiner le, bah, le savoir-faire, le geste, et pour derrière proposer toujours des produits qui nous plaisent et qui plairont à nos clients, quoi.
D'accord. Oui, donc tu as l'impression de pouvoir ressortir certaines leçons de l'évolution de telle ou telle meule parfois.
Savoir et pas savoir, quoi. Il y a des fois on sait ou on suppose que, et puis ouais, moi j'avais déjà entendu ça, mais c'est vrai que c'est difficile de faire un très bon fromage, et c'est encore plus difficile de comprendre pourquoi il a été très bon ce jour-là, quoi.
Ouais, j'imagine. Ah, c'est la poésie finalement de ce métier. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas plus de laiterie dans Paris ou même dans les villes en général?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont fait ça. En fait, par le passé, si on regarde l'histoire de Paris, par exemple, il y avait des laiteries, mais du coup, c'était vraiment l'idée de ramener du lait frais au plus près des Parisiens. Donc, c'était plutôt des endroits où on conditionnait du lait en bouteille, etc. C'était pas forcément de la fabrication fromagère. Le lait, c'est un produit volumineux, c'est majoritairement de l'eau. Donc, transporter du lait, c'est pas toujours facile. Donc, des laiteries avec de la transformation, je pense que ce qui a fait qu'elles ont été plus facilement et plus spontanément en bord de ferme ou en proximité de ferme, plus que dans des milieux urbains, sauf voilà pour des opérations de conditionnement final, notamment à des périodes où on n'avait pas de maîtrise de chaîne du froid comme on l'a actuellement.
Ouais.
Et après, au-delà de ça, de la spécificité laiterie, je pense que c'est vraiment comme toutes les productions alimentaires, quoi. C'est que il y a peu d'espace en ville, il y a des contraintes qui sont assez lourdes d'acheminement, de voisinage, de densité qui rend plein d'opérations plus compliquées. Donc, je pense que tout ça a été mis de côté petit à petit. Et donc, la laiterie a suivi aussi ça, quoi.
Dans ce contexte-là, c'est presque une idée un peu folle de décider, toi, d'ouvrir une laiterie dans Paris même.
Ouais, c'est pas commun, ça c'est sûr. Ça va pas de fait dans le sens où effectivement, il y a pas mal de petites contraintes toutes bêtes à mettre la transformation en ville, ne serait-ce que trouver un espace suffisamment grand, adapté techniquement à la fabrication. Après, par contre, ça a plein d'avantages. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, beaucoup dans le fait de ramener de la fabrication au cœur de ville, c'était évidemment la partie productive, mais au-delà de ça, d'en faire un support à justement tout ce qu'on montre et tout ce qui se voit depuis la rue, c'est-à-dire vraiment montrer de A à Z ce qu'on fait, ce qu'on fabrique et comment on le fabrique, c'est-à-dire que les gens puissent se coller à la fenêtre du laboratoire et nous voir et nous suivre sur une matinée de production.
Oui, parce que votre cave donc est visible depuis la rue, les piétons peuvent totalement voir ce qui se passe à l'intérieur.
Exactement, la cave d'affinage est visible depuis la rue, l'atelier de fabrication pareil, et pour moi ça c'est un rôle important, quoi, de finalement presque d'interpeller, de sensibiliser sur c'est vrai qu'en fait un fromage avant qu'il soit sous blister, sous vide, dans un rayon libre service ou chez un fromager, en fait derrière il y a bien une réalité de production, il a fallu attendre un certain temps. En amont, il y a une réalité de production qui est encore plus longue, puisque du coup, un élevage, ça se constitue pas comme ça. Enfin, voilà, il y a tout un cycle biologique derrière, et qui fait que, ça, on en a besoin pour arriver à un moment donné à intenter, vous proposer un fromage. Et finalement, ça, c'est aussi le rôle de cette cave-là. C'est-à-dire que nous, au tout début, quand on a ouvert la boutique, on a une laiterie, on a ouvert sans fromage, tout simplement, parce que nos fromages, les premiers étaient en cave, mais n'étaient pas encore suffisamment affinés. Mais par contre, ça permet d'engager le dialogue, d'expliquer que les fromages qu'on voit là, sous nos yeux, ils seront prêts, mais ils seront prêts dans 3 mois, 4 mois, etc., selon le type de fromage. Et donc ça, c'est, donc il y a vraiment cette partie sensibilisation directement depuis l'extérieur, moi, qui me plaît. Et puis il y a vraiment tout ce qu'on souhaite accueillir, qu'on a développé, qu'on a moins eu le temps de mettre en place, mais toute la partie accueil de classe du quartier, les ateliers pédagogiques, etc., quoi.
Ah, donc, génial.
On n'est pas ouvert en routine, mais c'est vrai que moi j'aime répondre présent si on a des sollicitations de visites, etc., et notamment vis-à-vis d'un public assez jeune qui, de fait, par le cadre de vie, n'est pas amené à voir ce que d'autres enfants plus facilement en étant voisin d'une ferme vont voir au quotidien, quoi. C'est vrai qu'ici, pour voir une cave d'affinage, en fait, à moins d'avoir la chance de pouvoir vadrouiller l'été, etc., à la campagne, on va pas spontanément le voir, quoi. Alors que finalement, le fait de mettre cette activité de fabrication ici, ça permet de montrer des choses qui sont plus visibles, qui sont plus accessibles. Et toutes les usines de fabrication, les industries agroalimentaires, on en a fait des boîtes dans lesquelles plus personne ne rentre, qu'on a mis loin des yeux. Là, au contraire, c'était l'idée d'aller un peu à l'inverse de ça, quoi, de rendre tout transparent et puis voir même au-delà de ça, de pouvoir vraiment emmener des gens, les habiller comme on a habillé là pour les faire rentrer dans la cave, qu'ils puissent parce qu'il y a le via le voir, mais il y a aussi une odeur dans la cave, il y a de la température, enfin il y a un ressenti qui est un peu plus global.
Oui, je vous confirme.
Voilà. Et donc ça, je trouve ça intéressant et important de pouvoir le faire, quoi.
Ouais, donc la dimension pédagogique est hyper importante aussi,
clairement,
tes yeux.
la dimension pédagogique, l'ouverture sur l'extérieur, oui. Ouais, ça, c'était vraiment central. C'est-à-dire que je voulais pas que ce soit l'activité première. L'activité première, on reste producteur. Je vais pas juste être un musée à faire venir des gens. Mais par contre, j'aime beaucoup l'idée que cette activité de production puisse être le support de, d'en plus, tout un gros travail pédagogique, quoi. De pédagogie, de sensibilisation, parce qu'en fait c'est tout bête, mais plus c'est aussi en sachant ce qu'on consomme, comment ça a été fait, qu'on peut aussi se poser les bonnes questions par rapport à toute la diversité de produits qu'on nous propose sous les yeux, quoi. C'est vrai que c'est difficile d'être un peu averti et de choisir en connaissance de cause un fromage par exemple quand on sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a en amont, quoi, alors qu'au contraire, si on a un peu plus déjà une idée plus précise de ce qu'il y a dans un fromage, c'est là où en tant que consommateur on peut s'interpeller, de se dire tiens, c'est quoi ces ingrédients bizarres qu'on a absolument pas besoin d'être dans un produit. Pourquoi est-ce que dans mon yaourt j'ai besoin de texturant, de gélifiant, etc. En fait, est-ce qu'il y en a fondamentalement besoin? Enfin, non, pas forcément. Donc voilà, c'est le fait d'expliquer tout ça, ça permet de se poser petit à petit les bonnes questions et voilà, aussi d'aider les gens de choisir derrière sur un modèle de consommation, sur une alimentation et tout ce que ça peut engendrer en amont sur toute la chaîne de production, quoi.
Après avoir quitté Paul qui fabrique des tomes affinées et des tomes fraîches, j'ai voulu donner la parole à quelqu'un qui cuisine ces dernières. Valentin Andrieux prépare tous les jours des casseroles d'aligots et de truffades, avec dans le cœur ses souvenirs d'enfance au village de Drujac, dans le Cantal.
Je passais beaucoup de temps à la ferme, et là-bas il y a beaucoup de fermes. J'avais de la famille qui était agriculteur, et puis dans chaque village on fabriquait le fromage, donc évidemment on participait à la traite. Et puis on participait à la fabrication du Cantal, et donc la tome évidemment qui fait partie des étapes pour arriver à faire du Cantal. Donc on faisait cailler le lait, on attendait une petite heure. Pendant 7 heures en général c'était le casse-croûte, donc on mangeait un bout de fromage avec un peu de confiture et puis tout ce qu'on préparait à la ferme. Et puis après la fabrication de la tome qui était pressée à un bon moment pour enlever le maximum de petit lait. Puis après avec cette tome qui est fraîche, soit on la broie, on la sale, ça part en presse dans les grands moules pour faire du Cantal. Ou après, quand elle est très fraîche, on peut faire des desserts ou d'autres choses. C'est un petit peu ça, quoi.
Comment, toi, tu le décrirais à quelqu'un qui, imaginons, n'en aurait jamais mangé?
La tome, c'est vraiment un fromage qui a 2-3 jours. Et c'est une des étapes pour faire du fromage, justement. Donc, c'est un peu, on le mange. C'est pas un fromage qu'on va retrouver sur un plateau, justement, ou qu'on va manger comme ça. On peut en manger un petit bout par gourmandise, mais c'est un fromage qui est très fade et qui est frais, donc c'est vraiment un fromage qu'on va utiliser en cuisine. Ou après, justement, quand il va être broyé et salé, on va le mettre sous presse pour vraiment donner la forme des meules de Cantal. Et ça va être affiné minimum 3 mois pour avoir un Cantal ou un Salers jeune, qui sont des fromages assez similaires. On retrouvera aussi la même technique de fabrication à l'aïeul, pour le fromage de l'aïeul, qui fait partie aussi des fromages AOP. On retrouve cette technique, mais c'est pas un fromage à part entière. Il y a des tomes dans pas mal de régions qui sont vraiment des fromages travaillés, affinés, qui vont avoir beaucoup plus de goût. Mais on va plutôt se rapprocher, dans l'idée, pour les gens qui connaissent pas, un fromage qui va se rapprocher un peu de la mozzarella, peut-être pas aussi moelleux, ça sera un petit peu plus ferme, mais un fromage très frais, très blanc. Et donc du coup, on l'utilise en cuisine parce que c'est ce qu'on a ce résultat avec l'aligot, par exemple, ça file beaucoup. C'est un fromage qui va être vite élastique quand il va commencer à chauffer.
C'est pour ça qu'on précise souvent que dans ce cas-là, on utilise de la tome fraîche.
Voilà, la différence, elle est là, c'est de la tome fraîche. Donc la tome fraîche, c'est pas un fromage qui va être très agréable à manger comme ça, parce que déjà c'est pas salé, donc ça a pas beaucoup de goût. Donc il y a pas trop d'intérêt à le manger comme ça. Mais il y a un intérêt dans la cuisine, parce que c'est là que c'est rigolo. Et c'est pour ça qu'après aussi on rajoute de l'assaisonnement dans la truffade et l'aligot, par exemple. C'est notamment avec de l'ail. Il y a toujours un peu cette pointe d'ail dans ces deux plats pour relever, parce que on se retrouve avec un plat à base de pommes de terre et de thym qui n'a pas beaucoup de goût, donc ça serait très fade. Donc on met largement de l'ail pour que ça donne un petit coup de peps et que ça relève vraiment ce plat, quoi.
Alors rappelle-nous la différence entre la truffade et l'aligot.
Alors déjà, c'est une question de géographie. On va retrouver principalement l'aligot, c'est un plat du plateau de l'Aubrac qui se situe sur un peu 3 départements, principalement en Aveyron, il y a un petit morceau du Cantal et de la Lozère. Et donc en fait, ça c'est la purée de pommes de terre qu'on va ensuite travailler un petit peu au beurre. Un peu de beurre, un peu de crème, évidemment de ferme, qui fait partie intégrante de tout ce qu'on peut avoir avec le lait de vache. Et puis après, une fois que cette purée va être très chaude, on va y mettre des morceaux de thym coupés très fins. On va mélanger tout ça, on va le monter à température tout doucement, et puis évidemment, il va y avoir cette osmose, le fromage va fondre, il va commencer à filer, et l'aligot est parfait quand bah, il fait un ruban, on le lève, et puis ça fait un gros ruban, on a déjà vu toutes ces images, de ça c'est connu. Et puis évidemment, normalement, on rajoute voilà une bonne pointe, un bon morceau d'ail à la fin, bien haché pour relever tout ça, un petit coup de fleur de sel. Voilà, donc ça c'est pour l'aligot qui est vraiment originaire, surtout la spécialité aveyronnaise. Et la truffade, ça serait plutôt dans le Cantal qu'on va retrouver ça. Donc ça, c'est les pommes de terre sautées que au départ on peut faire sauter soit la graisse de canard. Nous dans le Cantal, on avait beaucoup de saindoux, la graisse de cochon, parce que bah on tuait le cochon à la ferme, donc on avait toujours ces morceaux de gras ou un peu de poitrine, un peu très grasse qu'on fait fondre au fond de la casserole. Et après que ce gras, on fait sauter les pommes de terre. En général, on les faisait cuire à cru, c'est-à-dire qu'on part pommes de terre crues, on les fait cuire directement dans la graisse. Et puis, bah, à la fin, quand elles sont bien cuites, c'est pareil, même procédé. On fait fondre la tome, couper un petit morceau dessus. Avec l'ail, on laisse tout ça un petit peu fondre tranquillou. Et là, on mélange comme il faut, généreusement. Et puis voilà, puis on déguste, hein, évidemment.
Et alors, tu travailles au Plomb du Cantal. Donc, tous les jours, tu exécutes un certain nombre de plats, dont la truffade et l'aligot.
Voilà, bah nous, c'est nos deux spécialités au restaurant, au Plomb du Cantal. Ça fait 40 ans que l'enseigne, elle existe. Et nous, nos spécialités premières, évidemment, c'est la truffade et l'aligot. On fait les deux. Ça s'appelle le Plomb du Cantal, mais on fait découvrir les deux parce que, voilà, c'est super intéressant que les gens... La question me la pose tous les jours, quelle est la différence entre l'aligot et la truffade ? On est très content d'expliquer aux gens. Les gens connaissent maintenant... quand même pas mal l'aligot, c'est assez populaire, on le retrouve dans grandes surfaces ou on l'a vu dans des salons, pas mal de choses. La truffade, c'est encore un petit peu moins connu, mais bon, on commence à en entendre parler, les gens qui voyagent, et puis avec les réseaux sociaux.
Et alors, pour que l'aligot file comme il faut, est-ce qu'il est vrai qu'on est censé faire avec sa spatule en bois des huîtres dans le...
Pas forcément, on n'est pas en train de travailler non plus comme un sabayon ou quelque chose de liquide, après c'est... Il y a toujours des recettes de base pour l'aligot ou la truffade. Après, j'ai envie de vous dire, c'est comme pas mal de plats ou de la cuisine. On travaille pas de la pâtisserie. Ça va dépendre beaucoup un peu de la qualité, de la date de la tome. Parce qu'une tome qui va avoir une semaine, une tome qui va avoir 2-3 jours, bah, elle est plus ou moins fraîche. En général, l'idéal, c'est quand même qu'elle est rassie 3-4 jours, qu'elle s'est un peu reposée. Quand elle est trop fraîche, on va avoir peut-être encore un peu de rendu de petit lait. Quand elle est trop vieille, elle va pas filer. Elle sera un petit peu trop rassie.
Ah, faut l'avoir un bon moment, alors.
Voilà. L'idéal, voilà, c'est quand même, c'est pour ça que c'est assez difficile à travailler et à voyager parce que, bah, il faut qu'elle ait quand même, pas trop vieille, pas trop jeune. Donc, après, évidemment, si elle est laitière ou fermière, il y aura une petite différence. Le lait sera plus ou moins gras. Donc, voilà. Et puis, la pomme de terre. Donc, chaque ingrédient est important. La pomme de terre, si elle rend plus ou moins d'eau, ainsi de suite. Si elle supporte bien la cuisson. Si elle est cuite parfaitement ou si on l'a un peu laissé traîner dans l'eau après. Donc forcément, le rendu, il faut que voilà que ça fasse ce ruban, mais on va être tributaire évidemment comme pas mal de plats de bah, la qualité et le rendu et la façon dont les ingrédients ont été préparés quoi.
Et alors au Plomb du Cantal, d'où vient votre tome exactement? Vous avez des producteurs précis?
Oui, bien sûr, nous on travaille avec moi je travaille avec deux producteurs exactement. On travaille avec un fromager qui s'appelle Bonal qui est à Aurillac, un gros fromager qui est connu. Donc nous la plupart de nos fromages, c'est lui qui nous les affine et qui nous les fait livrer. Hormis la tome évidemment qui est pas affinée, mais après tous nos fromages qu'on a sur le plateau viennent de là-bas. Et après moi j'ai une copine qui tient une très belle boutique à Salers qui s'appelle la Cave Salers. Donc c'est pareil, eux ils sont affineurs sur place de tomes de Salers. Et donc du coup aussi ils fabriquent de la tome et on prend aussi un peu de la tome chez elles. Après, nous, on fait un peu notre petit mix parce que d'une tome à l'autre, elles ont des goûts très légèrement différents, mais avec du salaire, ça sera toujours du fromage fermier et commandé d'une seule ferme. Donc, on a des goûts un petit peu plus subtils. Et la tome de Bonal qui est fermière sera un petit peu plus élastique. Et c'est elle qui va justement donner ce côté très élastique et qui fera filer comme il faut la truffade et l'aligot, quoi.
Donc, la tome que vous recevez, si on n'utilisait pas dans sa version fraîche et qu'on l'affinait, ça donnerait la tome que l'on retrouve ensuite en fromagerie et qu'on achète.
Oui, on pourrait. Après, ça se fait, en général, ça se fait pas très bien affiner, le fait qu'il n'y ait pas de sel, en fait. Donc, c'est un petit peu compliqué. Elle va vite, ça va moisir et justement, elle sera pas... Ou alors, il faudrait une bonne cave et tout. Mais c'est intéressant, justement, voilà. Je vous dis, dans la préparation, c'est quand elle va être rebroyée, salée... Et là, on va la mettre sous presse parce qu'il y a toujours un petit peu de petit lait qui vont garder. L'objectif, c'est un peu de la faire vieillir en cave, de la faire sécher, quoi. Donc après, même avec du Cantal jeune, on commence à avoir des trucs hyper intéressants. On peut cuisiner avec du Cantal jeune. On pourrait remplacer très bien, par exemple, de la tome si on n'en a pas, c'est compliqué, par du Cantal très jeune. On l'a déjà vu, ça se fait. Bon, il y a une petite différence quand même, mais un Cantal jeune qui a 3 mois, ça n'a pas beaucoup de goût encore. Donc, mais c'est salé déjà, donc c'est ce qui peut faire un peu la différence finalement.
D'accord, donc ça veut dire qu'il faudra faire attention à un peu moins salé peut-être au moment du service.
Voilà, exactement. En général, de toute façon, c'est toujours très bien de saler un petit peu au moment de servir, enfin de contrôler un petit peu l'assaisonnement comme la plupart des plats. Parce que la cuisson, la réduction ou le goût du fromage peut être un petit peu différente en fonction de comment on l'a démarré.
Et à Paris, c'est difficile de trouver de la tomme fraîche en fromagerie.
Bah, on peut en trouver un petit peu sur des fromagers très spécialistes. Après, évidemment, on commence à en trouver. On le trouve sous vide la plupart du temps. Oui. Évidemment, parce que c'est un fromage qui travaille très vite et qu'on veut garder à un stade précis pour faire les préparations culinaires. Donc, la plupart du temps, vous le trouverez sous forme de pain sous vide. C'est souvent c'est des pains de 500 grammes, 1 kilo.
J'en ai trouvé la dernière fois chez Jules, rue du Faubourg Saint-Denis.
Ouais.
Et le fromager me disait, on n'en a pas tous les jours, donc profitez-en, prenez-en un. Donc, c'était une espèce de bloc. Et ensuite, il m'a expliqué que je pouvais facilement congeler ça, parce que j'ai acheté ça cet été. Donc
ça se congèle
pas
très, très bien aussi. Demain, si vous en trouvez du frais qui n'est pas sous vide, par exemple, l'idéal, c'est de le congeler si on n'est pas sûr de la faire dans les jours qui suivent. Ça se congèle très, très bien. Des fois, même, c'est même presque mieux, parce que la congélation n'est pas forcément négative pour le fromage. Enfin, en tout cas, ça dépend lesquels. Mais là, en l'occurrence, moi, ma maman, qui a acheté souvent de la tomme en Auvergne et tout, on en mettait au congèle. Quand on a des amis qui débarquent, on a toujours un morceau de tomme dans le frigo, dans le congélateur, pardon. Il faut laisser ça un petit peu décongeler 1 heure, 2 heures, et puis couper un petit morceau, et puis ça, c'est parti, quoi.
D'accord. Je pense que par curiosité, j'en mangerai un bout comme ça, tout seul, pour voir quel goût ça a. Tu disais que c'était plutôt fade, alors.
Ouais, c'est assez fade. Hein. Je veux dire, les gens qui n'aiment pas le fromage, ils peuvent goûter, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas trop de goût. Après, c'est agréable en bouche. Hein. C'est une pâte un peu molle. C'est très blanc, voilà, ça n'a pas trop de goût. Après, ça dépend un peu, évidemment, le goût. On l'aura si on part sur une tome de vache fermière. Là, on va l'avoir cet hiver. La tome qui va arriver là, ces jours-ci, c'est les vaches qui ont mangé, qui sont dehors, dans les montagnes. Donc là, elle est très bon. Les prés, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'herbes qui est très, très... on dit que sur les plateaux de l'Aubrac, par exemple, il y a environ 120 à 130 espèces de plantes au mètre carré sur les plateaux de l'Aubrac. Donc les vaches mangent ça, et ben directement, on va en retrouver ça dans le goût du lait et du fromage, c'est évident, quoi.
Donc c'est en ce moment la meilleure période pour manger un aligot ou une truffade.
C'est une très bonne période. Ouais, en général, là, en ce moment, la tomme, elle est vraiment très fruitée et c'est là qu'elle est top. Et puis évidemment, le Cantal qu'on va fabriquer en ce moment ou le Salers, on le retrouvera dans l'hiver et ça sera le top parce qu'il aura déjà passé 6 mois. Et ça sera le lait des montagnes, le lait d'été. Et c'est toujours meilleur, évidemment, le lait des vaches qu'on pâturait dans les montagnes.
Les choses sont plutôt bien faites alors, ce sera parfait pour cet hiver.
Pour Noël, on sera au top, on a un bon fromage.
Est-ce qu'au Plomb du Cantal, vous avez quand même beaucoup de clientèle qui viennent déguster ces plats-là, quand même assez roboratifs l'été ou en tout cas dans les beaux jours?
Ouais, il n'y a pas vraiment de saison parce que, alors évidemment, l'été c'est plus compliqué, les gens qui ne connaissent pas trop et ils ont un petit peu peur. Mais en fait, nous, c'est un plat qu'on mange toute l'année, j'ai envie presque même de dire plus l'été parce que toutes les fêtes de pays qu'on peut retrouver, de villages et tout, bah forcément, à chaque fois, ça sera un pavé aligot de bœuf ou une saucisse aligot ou une saucisse truffade. Enfin, on retrouvera toujours l'été ce plat. Et finalement, voilà, il n'y a pas vraiment de saison. On le mange toute l'année. Après, quand on est gourmand, surtout l'été, hein, de toute façon.
En fait, on a l'impression que ces plats sont hyper bourratifs, mais ils le sont surtout quand on en mange beaucoup. Finalement, on peut juste se prendre une petite louchée, peut-être, saucisse.
C'est des plats avec fromage, hein, de toute façon. Après, quand on mange des plats avec du fromage, le fromage, c'est quand même quelque chose qui est assez... bourratif, évidemment. Donc là, on a de la pomme de terre qui est quand même qui tient bien au corps, plus le fromage. Donc effectivement, c'est des plats qui... moi, je suis un bon mangeur, mais en général, une bonne assiette, déjà, on est un peu rassasié. C'est des plats de montagne, de toute façon. À l'époque, c'était vraiment des plats qu'on préparait et parce que on travaillait dans les champs, dans les fermes. C'était des boulots très physiques, donc il fallait qu'on ait quand même le ventre bien plein, quoi.
Oui, c'est ça. Assez d'énergie pour travailler toute la journée. Est-ce qu'il y a des choses à savoir précisément par rapport au service de ces plats?
Après, évidemment, c'est des plats qui sont faits à la minute. Il faut pas que ça traîne. C'est des plats qui vont très vite. Une fois que le fromage a fondu et qu'on a la consistance qu'on veut, c'est-à-dire ce gros cordon qui va filer, on va pas pouvoir garder ça pendant vita aeternam. Il va falloir vraiment le servir rapidement parce que ça tombe très vite. Donc il y a quand même une fourchette. Moi j'ai une petite anecdote. J'ai fait ça l'année dernière. On avait fait un aligot pour une cinquantaine de personnes en province pour un anniversaire. Et puis j'avais dit aux jeunes qui avaient organisé ça, moi vous me dites une petite demi-heure maximum avant quand vous êtes prêts que je puisse incorporer le fromage, commencer à préparer. Parce qu'une fois que l'aligot est prêt, on peut pas trop traîner. Donc j'étais prêt, évidemment, au moment de servir, il vient me voir, il me dit on a un petit souci, on a eu un blessé parmi les copains, c'est rien de très grave, mais ils attendaient les pompiers, ils s'étaient foulés la cheville et tout, donc du coup, au moment de servir, donc on a remis un petit peu de fromage, c'est reparti aussi sec, mais voilà, on est un petit peu tributaire de ça. Le fromage, après, quand il va avoir un peu trop de cuisson, le goût sera le même, on n'aura pas cette élasticité qu'on a au départ, quoi. Donc, on va pas trop laisser traîner quand même.
D'accord, donc ça va un peu s'affaisser, c'est ça ?
Voilà, ça va s'affaisser. Puis on retrouvera principalement le goût de la pomme de terre. Il n'y aura pas c'est psychologique, mais quand on va bien filer, on imagine quand même le fromage.
Ça fait partie du plaisir aussi.
Et ça aussi, ouais, évidemment.
Est-ce que c'est un de tes plats préférés, on peut le dire ?
Évidemment, je suis chauvin, je pourrais pas dire le contraire, mais moi, la truffade, je suis né un peu dedans, j'en ai mangé depuis tout petit. Et ça fait partie des plats que ma grand-mère faisait, par exemple. Donc, j'ai ce souvenir-là. Et puis, c'est un peu notre plat star de ma région. Donc, j'en suis très fier. Ouais.
Donc, même si tu en fais tous les jours, t'en as pas marre.
Ouais, c'est ça le problème. En fait, c'est que j'en fais tous les jours et j'en ai pas marre. Et évidemment, des fois, ça serait bien parce que c'est pas forcément bon pour la ligne. Mais quand on est gourmand, évidemment, c'est cette odeur d'ail chaud, en fait, qui est très gourmande. Nous, les gens dans le restaurant, ça sent très bon, mais oui, parce qu'en fait, l'ail chaud, c'est comme les oignons quand on commence à les faire griller dans une pièce. Cette odeur, elle est ça ouvre les papilles tout de suite. Et nous, forcément, l'ail qui est dans les préparations, ça sent toujours cette petite odeur d'ail cuisinée dans le restaurant. Et puis, évidemment, ça, c'est très, très dur de résister.
C'est vrai, c'est inimitable. Quand on n'a pas encore trop, trop faim, mais qu'on sent cette odeur, on se dit le repas va bientôt arriver. Ça tapisse déjà l'appétit, en fait.
C'est ça, il y a des odeurs comme ça qui font ouvrir comment l'estomac là, et c'est génial quoi.
Est-ce qu'il y a des vins qui vont particulièrement bien avec ces deux plats qui présentent de la tomme fondue dedans ?
Oui, évidemment il y aura pas plein de vins. Après nous on sert des vins un peu de notre coin qui peuvent s'accommoder avec.
C'est pas mal ça de faire des associations de région aussi.
Voilà, on essaye de rester un petit peu. Alors évidemment l'Auvergne n'est pas une grande terre de vin. Mais depuis quelques années, il y a quand même des terroirs qui ont un petit peu grandi et qui commencent à être assez intéressants. Nous, on travaille le 100%, qui est une coopérative qui est assez ancienne déjà. Et c'est un rouge, la ficelle, qui est très connu. Les bouteilles sont rigolotes. En fait, ça fait des années qu'il y a chaque millésime. Chaque année, on retrouve un dessinateur qui fait la déco de la bouteille. Donc, c'est très sympa. Et puis après, on travaille aussi avec du Marcillac, qui est un vin d'Aveyron, qui a vu un peu plus le soleil, qui est un petit peu plus corsé, et qui, avec la saucisse ou des viandes, et puis évidemment l'aligot, se marie très très bien aussi.
Plutôt des vins rouges, alors ?
Plutôt des vins rouges, évidemment, parce que on veut des vins un petit peu tanniques, un peu corsés, pour aller avec des plats avec de l'ail ou des viandes qui sont un peu goûteuses, il faut quand même quelque chose d'un peu relevé, mais bon. On peut aussi très bien voir ça qu'un on a de le blanc à 100% qui est très bien aussi ou des vins du coin, ouais.
Alors j'ai des amis suisses qui m'ont expliqué que parfois ils trichaient un peu dans leur fondue, ils mettent un peu de citrate de bétaïne directement dedans pour aider à la digestion. Est-ce que c'est envisageable avec la truffade et
Non, nous on le fait pas. Je sais que ça se fait beaucoup. Je sais que ça se fait pas mal ou du bicarbonate, ça se fait beaucoup pour la fondue pour qu'elle soit beaucoup plus digeste. Et ça marche parce que j'en ai mangé une il y a quelques mois à Chamonix dans la vallée. J'ai un ami qui est là-bas, qui m'en a fait goûter une très très bonne d'ailleurs. Et ils utilisent un petit peu de... Nous on le fait pas, nous on veut vraiment que ça tienne au corps toute la journée.
Qu'on s'en rappelle quoi, qu'il y a une persistance. Ça pourrait être une option au plan du Cantal. Pour 1 euro de plus, on vous ajoute...
le petit verre de citrate de bétaïne, ça serait pas mal, oui.
Il y a un truc profondément réconfortant dans le principe d'un plat comportant du fromage fondu. Non pas par-dessus comme un ajout, mais en tant qu'élément constitutif même de la recette. C'est vraiment le cas de l'aligot et de la truffade. Je repense d'ailleurs à une randonnée de plusieurs jours cet été dans les Hautes-Alpes, avec bivouac et bouffe au réchaud. Et il y a un soir où on s'est préparé de l'aligot. Et c'était sans doute le plat le plus revigorant possible après tout ce dénivelé. Merci à Paul Zindi et Valentin Andrieux de nous avoir donné de leur temps pour partager leur passion. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Listari, montée et mixée par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard. À mercredi prochain!